Radio HDR, le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1 FM.
Je vous remercie de votre attention.
attraction. Oh, but the Yankee Dollar is the main attraction. So, yeah, they don't know.
Cinéaste.fr en partenariat avec RFI.
Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, 13h ici à Paris.
Anne Contenaire.
C'est RFI Midi qui commence 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux. Le tour de l'actualité dans le monde et à la une aujourd'hui, 1er mai. Le 1er mai, fête internationale des travailleurs, célébrée dans de nombreux pays du monde et notamment en France.
Moi, je suis fille de mineur. Mon père a fait 35 ans de fond. Rien ne s'est fait sans lutte. Le gouvernement n'a pas décidé du jour au lendemain de se lever en nous disant « Allez, on va mettre les 35 heures en place. Allez, on va augmenter les salaires. Allez, on va augmenter le SMIC. »
Voilà, reportage à Liévin, dans le nord de la France, auprès de syndicalistes. Liévin, où contrairement à ce qui se faisait chaque année, le nouveau maire d'extrême droite a refusé de rencontrer les représentants des travailleurs. 1er mai, journée fériée, en principe, parce que cela fait débat en France. On en parle dans un instant dans le journal. Et on s'arrêtera plus longuement dans une demi-heure sur le côté très politique de ce rendez-vous cette année. Nous irons également en Turquie dans une heure, où les autorités avaient imposé de nombreuses restrictions. La police est intervenue contre les manifestants à Istanbul. Et on compte plusieurs centaines d'arrestations. Au sommaire également, le Mali. Les indépendantistes viennent de prendre le contrôle du camp de Tessalit dans le nord, abandonné par les militaires maliens et les forces russes qui les soutiennent. On y reviendra dans Afrique Midi, midi et demi temps universel.
RFI Midi.
On parlera aussi des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie, de plus en plus grandes. Les Nations Unies estiment que plus de 230 enfants ont été tués par des soldats ou par des colons israéliens depuis le 7 octobre 2023. Parmi eux, il y a un adolescent de 14 ans tué à Al-Mourahir. Notre envoyé spécial a pu rencontrer ses proches.
Le jour des tirs, j'ai été pris de stupéfaction. Les colons tiraient au hasard sur nous, les habitants et les élèves. J'ai eu peur et je suis parti en courant. Des gens l'ont ramené. J'ai vu que la blessure se trouvait au niveau de la tête. C'était horrible à voir. Je n'ai pas pu le supporter. Je suis resté là, abasourdi.
Reportage à écouter à 12h25, temps universel. On reviendra aussi sur ces déclarations concernant la prochaine Coupe du Monde. Hier, en quelques minutes, le président de la FIFA puis le président américain ont tous les deux indiqué que l'Iran pourrait bien jouer des matchs de Coupe du Monde sur le sol américain. Gianni Infantino avait toujours défendu cette position. Donald Trump, nettement moins. On y reviendra avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
C'est donc la journée internationale des travailleurs aujourd'hui.
En France, les syndicats sont déterminés à défendre un 1er mai sans travail. Seul jour férié obligatoirement chômé pour les salariés. Plus de 300 rassemblements et 150 000 manifestants sont attendus dans toute la France et notamment à Paris. Le cortège partira maintenant dans une heure de la place de la République. Anne Verdaguer, vous êtes déjà sur place. Les syndicalistes sont en train d'arriver et ceux que vous avez rencontrés sont déterminés à défendre ce jour férié hautement symbolique. Anne, après des semaines de débats houleux sur le sujet avec le gouvernement qui a fini par reculer, les militants restent prudents.
Oui, prudent, c'est le mot. On peut lire sur les pancartes dans la foule rassemblée ici. Le 1er mai nous appartient, pas touche au 1er mai. Le gouvernement souhaite en effet que les artisans, boulangers et les fleuristes puissent faire travailler leurs employés ce seul jour férié et chômé en France. Pour Gwen-Sophie Girard, secrétaire régionale adjointe Île-de-France de l'UNSA, c'est une question de droit constitutionnel.
Le 1er mai est une journée un peu au-delà des traditions, c'est qu'en fait on fête justement la journée chômée pour le travail et puis on voit que le gouvernement est en train d'essayer de faire marche arrière sur un droit constitutionnel et une fois qu'on commence à ouvrir la boîte de Pandore, après c'est fini quoi. On ne sait plus comment arrêter le fléau. Et nous en tant qu'organisation syndicale, on a un peu l'impression d'avoir touché un peu nos droits fondamentaux de liberté quoi.
Voilà, l'autre volet de ce rassemblement, c'est la défense du pouvoir d'achat sur fond de reprise de l'inflation alors que les prix de l'énergie explosent. La secrétaire générale de la CGT a demandé dans une lettre au Premier ministre aujourd'hui un blocage des prix des carburants ainsi que le rétablissement de l'indexation des salaires sur les prix. Sophie Binet qui sera en début de cortège avec les autres syndicats pour le départ de cette manifestation Place de la République à Paris dans une petite heure maintenant.
Anne Verdaguer en direct de cette Place de la République. Le 1er mai, célébré ailleurs dans le monde et réprimé en Turquie. Plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés par la police à Istanbul. Deux groupes en particulier ont été visés. Alors, pardon, qu'ils souhaitaient se diriger vers l'emblématique place Taksim au lieu de la contestation en Turquie. Dès le début de la semaine, les autorités turques avaient procédé à beaucoup d'arrestations en amont du 1er mai, notamment dans les milieux de la presse et des mouvements d'opposition.
Le niveau d'alerte terroriste relevé d'un cran au Royaume-Uni à la suite d'une série d'attaques visant les Juifs dans le pays.
Avant-hier, un homme a blessé au couteau deux personnes dans un quartier juif de la capitale. Le suspect a été inculpé. Il doit comparaître dans la journée devant un tribunal. C'est le dernier épisode d'une série d'attaques ces dernières semaines contre des Juifs au Royaume-Uni.
Au Mali, le camp stratégique de Tessalit dans le nord est désormais sous contrôle de la rébellion indépendantiste du FLA.
De sources concordantes, l'armée malienne et ses alliés russes auraient abandonné leur position à Tessalit. Les djihadistes du JNIM appellent les partis politiques et les forces armées à faire front commun contre la junte et à établir une transition du pouvoir. Le JNIM impose désormais un blocus routier de la capitale. La Russie assure que ses forces vont se maintenir au Mali.
Deux mois de guerre en Iran, 60 jours exactement, et c'est normalement une échéance pour Donald Trump.
Depuis la guerre du Vietnam, la loi impose au président américain de demander l'autorisation du Congrès pour poursuivre ses opérations. Mais son gouvernement a laissé entendre qu'il pourrait bien ignorer cette obligation, car d'après lui, le cessez-le-feu en vigueur repousserait cette échéance. Pendant ce temps, les négociations avec Téhéran piétinent. François-Damien Bourgerie, bonjour.
Bonjour.
C'est dans ce contexte que le commandement central, le CENTCOM, a présenté hier à Donald Trump les différents scénarios pour une reprise du conflit.
C'est en tout cas ce que rapporte Fox News. Le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, aurait présenté à Donald Trump un plan pour porter le coup fatal à l'Iran. Il s'agirait d'une vague de frappe courte et puissante contre ses dispositifs militaires, ses dirigeants et des infrastructures. Selon le site d'information Axios, qui avait été informé de la tenue de cette réunion, d'autres options étaient sur la table. Une prise de contrôle partielle du détroit d'Ormuz pour le rouvrir au trafic commercial, une opération qui pourrait inclure une intervention terrestre. Troisième option, une opération des forces spéciales pour sécuriser le stock d'uranium enrichi que Téhéran est accusé de vouloir utiliser à des fins militaires. Un briefing similaire avait eu lieu le 26 février, deux jours avant l'opération israélo-états-unienne contre l'Iran. Alors cette réunion annonce-t-elle une reprise des hostilités, ou s'agit-il d'une manière de mettre la pression sur la République islamique dans les négociations? Donald Trump a en tout cas déclaré mercredi à Axios qu'il jugeait le blocus des ports iraniens imposé par Washington un peu plus efficace que les bombardements.
François-Damien Bourgerie, un blocage qui pourrait durer des mois selon l'administration Trump alors que l'économie mondiale est fortement impactée.
Sur l'autre front de la guerre au Liban, de nouvelles frappes israéliennes ont fait au moins 17 morts hier.
Le cessez-le-feu décrété il y a deux semaines n'empêche pas les bombardements quotidiens. Israël affirme vouloir protéger sa région nord des attaques du Hezbollah pro-iranien qui continuent.
Des dizaines de membres de la flottille pour Gaza ont finalement accosté en Crète.
Ils avaient été interceptés hier par les forces israéliennes. Deux d'entre eux ont été amenés dans le pays pour interrogatoire, selon un message du gouvernement de l'État hébreu.
À Gaza, où des milliers de personnes décédées pendant le conflit n'ont pas de sépulture.
Leurs dépouilles n'ont jamais été retrouvées, probablement ensevelies dans les décombres de bâtiments détruits. Les recherches sont toujours en cours et c'est un travail de titan. Reportage à Gaza de Rami El-Megari avec Guilhem Deltey à Jérusalem.
L'absence de corps et même de certitude rend le deuil impossible pour de nombreuses familles. Patrick Griffiths, porte-parole du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, est actuellement en visite à Gaza.
Elles ne savent pas s'ils sont détenus ou s'ils ont été tués et que leur
leurs dépouilles n'ont pas encore été retrouvées ou identifiées. Nous pensons à la souffrance qu'elles endurent chaque jour, à attendre ou à chercher des réponses.
Les opérations de recherche sont menées par la défense civile et les autorités de Gaza. Le CICR leur vient en aide, mais il n'y a actuellement dans ce territoire palestinien qu'un seul bulldozer.
Dans les semaines à venir, nous pourrons affirmer que nous disposons de deux bulldozers en état de marche pouvant être utilisés à cette fin. Il y avait un autre bulldozer à Gaza avant le début du conflit, armé en 2023. Celui-ci est actuellement en cours de réparation à l'aide de pièces de rechange disponibles sur le marché local.
L'autre difficulté est que la majeure partie du territoire palestinien est située derrière une ligne jaune tracée par l'armée israélienne. Elle est inaccessible sans son autorisation.
Nous faisons de notre mieux pour coordonner nos actions avec les autorités israéliennes lorsque ces opérations doivent avoir lieu dans les zones situées à l'est de la ligne jaune. Mais nous n'y parvenons pas toujours. Parfois, nos demandes sont retardées ou rejetées. Elles sont parfois approuvées, mais le bilan n'est pas parfait.
Ces opérations comportent des risques jusque dans la zone accessible. Les débris que les secouristes doivent fouiller peuvent dissimuler des charges qui n'ont pas explosé. Rami El Megari, Gaza, Guilhem Delte, Jérusalem, RFI.
L'accord commercial entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur entre en vigueur aujourd'hui.
Dénoncé par le monde agricole et la France, loué par Bruxelles, l'Espagne ou l'Allemagne, il crée l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, avec plus de 700 millions de consommateurs. Mais l'accord est appliqué de façon provisoire. Le Parlement a saisi la justice pour vérifier sa légalité. Les agriculteurs européens condamnent un traité qui les expose, disent-ils, à une concurrence déloyale.
Du sport. En tennis, Arthur Fils va se mesurer au numéro 1 mondial cet après-midi en demi-finale du Masters 1000 de Madrid.
En l'absence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz blessé, l'Italien Yannick Sinner est le grand favori de Roland-Garros. À l'heure actuelle, le Français n'est au mieux qu'un outsider pour le grand chelem français, mais il enchaîne les bons résultats et ce rendez-vous peut l'aider à s'affirmer dans la hiérarchie du tennis mondial. Babacar Diarra.
Se mesurer à un numéro 1 mondial, Arthur Fils l'a fait il y a à peine 2 mois, en finale du tournoi de Doha. Un moment furtif avec une défaite en 50 minutes face à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Le Français de 21 ans l'avait bien encaissé car son corps digérait une rééducation encore récente. Mais aujourd'hui, l'actuel patron du circuit Yannick Sinner défiera un autre Arthur Fils. Le Français de 21 ans gagne en maturité dans ses émotions, malgré une raquette fracassée au premier tour de son parcours madrilène. Surtout, son style de jeu fougueux lui permet de tutoyer les tout meilleurs avec un coup droit référencé et sa régularité marquée par un titre à Barcelone lui permet d'afficher une 4e place à la race, le classement sur l'année civile, des ingrédients qui le rendent bouillant avant de défier l'impassible Italien, invaincu depuis 26 matchs dans les Masters 1000. Les deux hommes n'ont qu'une opposition dans leur historique, remportée par Sinner en 2023. Depuis, ce dernier a raflé 4 titres majeurs et Arthur Fils doit commencer par dompter la terre ocre madrilène pour envisager de s'asseoir à sa table.
Babacar Diarra, début de la rencontre aux alentours de 16h, heure de Madrid.
Karine Bellicha pour le journal, à tout à l'heure. La fabrique du monde, comme tous les jours à cette heure-ci. Guillaume Nodin, vous revenez aujourd'hui sur la place des forces russes au Mali, qui n'ont pas pu empêcher les djihadistes et les indépendantistes du FLA de prendre la ville de Kidal cette semaine. D'ailleurs, elles n'ont pas non plus empêché les autres attaques menées au même moment ailleurs dans le pays, qui, elles, ont été repoussées. On parlait dans le journal de la prise du camp de Tessalit dans le Nord. Tout cela, ça pose, selon vous, la question de la perte d'influence de la Russie.
Oui, c'est un coup dur pour la crédibilité des troupes russes de l'Afrika Korps, qui a succédé au groupe Wagner. Un coup d'autant plus dur que l'Afrika Korps avait été organisé pour être beaucoup mieux intégré et beaucoup plus directement dirigé par l'armée russe. C'est donc un échec beaucoup plus direct. La situation est rendue d'autant plus difficile par la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara, considéré comme l'un des architectes du rapprochement de son pays avec la Russie.
Le doute existe désormais et le Kremlin, de son côté, tente de limiter les dégâts.
Et les autres pays de l'Alliance des États du Sahel sont très prudents. Ils n'ont pas apporté leur aide au Mali. Ils sont eux-mêmes confrontés au phénomène djihadiste et bénéficie beaucoup moins de l'appui russe, tout juste quelques centaines de soldats pour le Burkina Faso et le Niger. Il y a donc peut-être une forme de méfiance. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a répondu à l'appel des rebelles à la Russie de quitter le pays. La Russie poursuivra, y compris au Mali, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, et elle continuera d'apporter son aide aux autorités en exercice.
Mais ça n'est pas la première fois, hein, Guillaume, que la capacité de la Russie à aider ses partenaires est mise en doute.
On est dans une situation qui ressemble un peu à celle du Mali. Avec la pression djihadiste, la Russie a été incapable de sauver le régime syrien, se contentant d'évacuer vers Moscou le dictateur Bachar el-Assad et sa suite. La Russie est encore présente sur place, mais sa posture a été considérablement réduite et la presse russe se fait l'écho d'une diminution encore plus importante sur la base aérienne de Khmeimim. Dans un registre très différent, il y a d'autres exemples frappants. L'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, il n'y a eu qu'un soutien verbal. Même chose pour l'Iran au moment des frappes israélo-américaines. La Russie a aussi perdu son cheval de Troie hongrois en Europe avec la défaite de Viktor Orban.
Alors il faut quand même relativiser.
Oui, la Russie continue à vendre du pétrole à la Hongrie et cela reste un moyen de pression. Elle est encore présente en Afrique. Vladimir Poutine continue à être écouté. Rien que depuis la chute de Kidal, il a reçu le ministre des Affaires étrangères iranien pour une nouvelle marque de soutien. Il garde son accès privilégié à Donald Trump. Il lui a parlé pour l'alerter sur les conséquences dommageables de nouvelles frappes en Iran. On verra s'il est entendu. C'est que fondamentalement, la Russie n'a pas d'amis ou d'alliés, en tout cas très peu de pays avec lesquels elle a des accords de défense. Elle n'a que des intérêts qu'elle est prête à sacrifier.
Napoli, Some man up to use my voice and I raise again, I pray her of gratefulness.